Egunon deneri, bonjour à toutes et à tous, c'est à Ongi Etori dans ce nouveau podcast du groupe citoyen Elgarrekin. Vous le savez maintenant, l'association Elgarrekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales, puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité actuelle une liste qui est menée par le maire du Rhône, Philippe Aramendi. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est de vous faire découvrir à vous, les Ourougnards, de vous faire connaître les membres de ce groupe. Et je vous propose aujourd'hui de discuter avec une figure connue auprès de beaucoup d'Ourougnards, Lionel Théard. Lionel Egunon.
Egunon Lion.
Alors Lionel, tu as 40 ans et tu es né à Saint-Jean-de-Luz. Mm-hmm. Tu as grandi au garage Théard, le garage de ton grand-père.
C'est ça.
Tu fais partie de cette génération qui a vu l'arrivée d'Internet, des téléphones portables, mais qui a vécu sans tous ces outils. Quel souvenir ouais. gardes-tu de ton enfance?
Mon enfance à Urugne, mais elle est peut-être pas comparable avec aujourd'hui. Donc c'était une façon de vivre qui était différente, même s'il y a beaucoup de similitudes, on va pas non plus extrapoler. Mais on était beaucoup tourné sur l'extérieur. Urugne était peut-être plus petit. En 90, je crois, il y avait que 6000 habitants. Donc en comparaison avec aujourd'hui,
il y a presque le double. Oui.
Voilà, c'est ça. Même si le bourg a à peu près la même configuration, nous on était beaucoup tournés voilà, vers l'extérieur, on jouait beaucoup entre le fronton et le stade.
Oui, peu importe la météo, on était dehors.
Voilà, comme les Irlandais.
malgré cela, tu as eu envie de voyage une fois adulte. Tu es parti à l'autre bout du monde, aux Antipodes, mais tu es revenu ensuite à Urugne, définitivement.
Ah mais ça, je ne sais pas qui c'est qui peut le savoir, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été une expérience. Bon, je suis parti un an, hein, mais, oui. Mais je suis parti assez loin, puisque c'était quand même en Australie. Mm-hmm. Et effectivement, c'était quelque chose de très enrichissant.
Et tu partais avec quel objectif? Parce que bon, ça se fait de plus en plus maintenant. C'est vrai que dès qu'on peut, quand on a entre... on va dire 18 et 30 ans, si on peut se prendre 6 mois, 1 an pour voyager, pour aller voir une autre culture. Toi, à l'époque, c'était avec quel objectif?
Moi, l'objectif premier, c'était d'acquérir un anglais d'un bon niveau, je vais dire, parce que j'avais l'espagnol courant du fait de travailler à Hendaye et d'avoir des connexions quotidiennes avec l'autre côté. Et donc, j'avais ce besoin-là, dans un premier temps, pour mon cursus professionnel. Mmh. Et puis surtout, je voulais voilà, vivre une expatriation qui soit le plus loin possible, je vais dire, d'Euskal Herri, pour ne pas avoir aucune tentation de revenir sur un an.
D'un coup de tête, voilà. Allez, je prends un billet, je
reviens. C'est ça, je suis un peu cache-cogore, donc je ne voulais pas avoir la possibilité de rentrer. Quoi.
D'accord. Et avant ça, avant de partir, donc, tu as travaillé 10 ans dans le transport et la logistique à Hendaye. Puis de retour ici, tu as décidé de tout changer et de reprendre des études pour devenir plombier. Comment s'est passée cette transition?
Et du fait de mon année en Australie, en fait, j'ai réalisé déjà que j'avais quand même de l'épanouissement dans le fait de m'accomplir au niveau du travail manuel. Et donc, c'est un projet que j'ai mûri surtout là-bas. Et puis surtout, j'ai réalisé qu'en fait, le premier objectif était peut-être ensuite de m'établir peut-être en France, peut-être en Europe, avec mon cursus et pouvoir gravir des échelons dans éventuellement des grosses entreprises de transport ou de logistique. Oui. Mais j'ai revu mes objectifs totalement, je veux dire, à la baisse, entre guillemets. Mmh. Parce que j'ai vraiment réalisé, en fait, c'est, voilà, c'est quand on quitte un peu notre territoire, qu'on réalise à quel point il nous est cher. Et moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Quoi. Depuis toujours, on est immergé ici. Donc, tout le monde nous parle d'ici, mais nous, on ne réalise pas parce que nous, on est à Euskal Herri.
On est né ici. Ouais.
Mais le fait de s'expatrier, de prendre du recul et de regarder avec un angle différent... Mais on réalise à quel point voilà, on a envie de s'établir ici. Enfin, moi, ça a été mon cas.
Et reprendre des études à 30 ans, ça va? Ça se passe bien?
Il faut dire que c'est pas évident, surtout que là, on part vraiment voilà, sur vraiment des compétences manuelles, un savoir-faire qui associe de la technique avec une dextérité. Donc, il a fallu s'adapter. Mais bon, comme j'avais quand même un cursus avec mon Hitachi et mon père... J'avais déjà
bricolé, on va dire.
Voilà, donc ça m'a facilité la tâche, je vais
finalement,
dire.
Finalement, ce que tes habitudes d'enfance ou d'adolescent t'ont aidé plus tard.
Ouais, je pense complètement ça. Que il y avait quand même des choses qui étaient assez naturelles chez moi, du fait, voilà, moi, j'ai, comme je dis, j'ai été baptisé au gasoil. Hein. Donc, donc, voilà.
On pourrait plus dire ça maintenant, c'est à l'électrique. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Alors, tu connais le principe de l'interview. Avant de discuter de ta vie associative, de tes engagements, ouais. On passe à notre jeu, le plutôt ça ou plutôt ça. Je te fais deux propositions, tu dois en choisir qu'une seule. Choisir, c'est renoncer. Tu le sais. Mmh. On commence gentiment. Plutôt plage ou montagne ?
À montagne.
Montagne, il y a un coin comme ça à Urune qui te.
Je passe beaucoup de temps au Mandalay.
Mandalay. On complique de suite. Plutôt Fermín Muguruza ou Gorka Urbizu ?
Ah, c'est. La frontière est pas immense, mais par rapport à la voie, je dirais Gorka Urbizu. Après, sur tout ce qu'il a amené.
Et par rapport à l'énergie
son
aussi.
Son énergie, ouais, totalement. Ouais. Évidemment, Fermín aussi, il a une part importante pour moi.
Et ça aurait été plus difficile de répondre à plutôt Cortatu ou Negu Gorriak ?
Non, parce que moi, j'ai été, de par mon âge, directement connecté avec Negu.
Ouais, tu as une anecdote, justement, tu m'en as parlé tout à l'heure.
Un égout, mon égout, ça a été un détonateur un peu dans ma vie, un peu dans ma prise de conscience au niveau de plein de sujets qui nous sont chers. Hein. Mais oui, en 2001, voilà, j'ai pu assister à leur dernier concert à Bayona. Et j'avais 16 ans, je devais faire 35 kilos.
Non, et t'étais là devant.
J'étais au premier rang, je me souviens très bien. Pour moi, c'était impressionnant. Quoi. Mm.
On reste dans la musique. Plutôt guitare ou batterie ?
À l'heure actuelle, guitare. Guitare, parce que la vie fait que la batterie, elle n'est pas forcément compatible avec l'endroit où on habite. Mm. J'ai beaucoup pratiqué très jeune, de mon enfance à mon adolescence. Mais aujourd'hui, je suis plus tourné vers la guitare et la voix aussi.
Et il y a un instrument que tu joues de temps en temps, comme ça, un troisième instrument ou un instrument que tu aimerais apprendre, tiens.
Ben en fait, les deux correspondent. C'est-à-dire qu'il m'arrive des fois, dans la pénombre, je vais dire, à des heures un peu tardives, de m'essayer au tricky. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Il faut en avoir un sous la main. Quoi,
c'est voilà, cool. C'est ça. Ouais. Mais
Et donc, tu aimerais le perfectionner ?
Mais ouais, réellement, c'est un instrument vers lequel je pourrais me tourner à l'avenir. Ouais.
Ok. Plutôt Saint-Jean ou Handaï ?
Ah ben Handaï, sans aucun doute.
Ah, c'est très drôle parce que je la fais souvent, cette question, à peu près la même, et j'ai des réponses totalement l'un ou l'autre, toujours. On voit la Urugne au milieu.
C'est ça.
Plutôt chanter sur scène ou à l'église ?
C'est deux atmosphères différentes, deux sensations différentes, mais quand on est un puriste un peu de la voix, c'est vrai que le potentiel acoustique de l'église, détaché de tout aspect du culte, je vais dire, rien que par rapport au côté structurel du truc, oui, moi, chanter dans une église, c'est très très puissant.
Il y a un moment qui t'a marqué
Moi, je dirais, mon premier solo avec Astel Houssard il y a 3 ans. Voilà, au niveau vocal, c'est un moment qui m'a marqué. Oui,
on s'en souvient. Les néo-andaïs s'en souviennent.
Mieshker.
Alors, Mieshker, d'avoir joué le jeu.
Place Rekin.
On passe maintenant à ton engagement associatif. Alors, bon, je t'ai titillé sur la musique, car c'est une activité centrale dans ta vie. On y reviendra. Avant cela, il faut que tu nous racontes ta carrière de rugbyman.
Ouais, grande carrière. Grande carrière qui est... Bon, j'ai pas été très loin, mais oui, effectivement, moi, j'ai commencé...
Tu as été jusqu'au stade, quand même.
Ouais, j'étais jusqu'à Handaï. Mais non, sérieusement, j'ai commencé naturellement très jeune, à 6 ans, en fait, parce que le terrain de rugby était très proche de la maison. Et mon oncle, Jean-Paul Vergès, était entraîneur à l'époque à l'école de rugby, donc il m'a conduit... avec lui assez naturellement. Et je suis resté là-bas 20 ans, en fait. 20 saisons à Urune, donc beaucoup de souvenirs, beaucoup de relations.
Et voilà. Tu as eu le temps de jouer d'autres sports en même temps ? Ou peut-être juste avant ?
Ouais, j'ai... J'étais assez dynamique au niveau sportif à l'époque, comparé à maintenant, je dirais. Mais oui, je joue au Dioko Garbi aussi. J'ai fait partie de l'école de Dioko Garbi d'Urruña à l'époque, avec Maurice Aguerrech, qui était entraîneur. On avait une petite génération voilà, de copains, mais j'ai dû arrêter parce que l'école avait arrêté, je crois.
D'accord.
Et je me suis dirigé à Don Libanais, à Saint-Jean-de-Luz, à l'époque, dans un club qui s'appelait Gastenac. Okay. Et c'était le club de Sesta Punta de Don Libanais.
Ojayalay.
Voilà, mm-hmm. Ojayalay.
Tu t'es investi dans de nombreuses associations à Urugne, à la Clique, au Comité, à Bertiouli. À tes yeux, quel rôle joue le monde associatif dans un village comme Urugne?
Pour moi, le premier rôle en tant que citoyen rougnard ou autre, mais il se joue voilà, au niveau de ton inclusion. Quoi. C'est-à-dire que l'associatif va te permettre de t'ouvrir à d'autres sphères, à te diriger vers d'autres types de personnes, peut-être à ouvrir tes idées et prendre aussi confiance en toi, monter des projets, faire pleinement partie voilà, de projets différents, hein, que ce soit dans la musique, le chant, la danse ou bien le sport. Mais l'élément numéro un, il est là pour moi.
Et l'euskara dans tout ça, tu l'as appris un peu à l'école publique en maternelle, et puis sur le tard, une fois adulte, en gaue eskola et en barnategi, beaucoup considèrent que c'est dur d'apprendre l'euskara. Pourtant, tu as un bon niveau, hein. On l'a vu ici tout à l'heure. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui hésitent à se lancer?
Déjà, la première chose, c'est de se sortir de l'idée que l'euskara est une langue difficile. Parce que déjà je pense que ça peut amener un phénomène de blocage par rapport à ça, ou du moins soit une frustration ou une pseudo tendance à avoir honte de le pratiquer. Et après pour moi donc naturellement vient le sujet d'oser en fait, d'oser tout simplement expérimenter, assumer ses erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, ici dans le coin, en français, quotidiennement, on doit faire peut-être 100 erreurs par jour, réellement, mais on ne fait pas du tout attention aux erreurs qu'on commet avec le français.
Oui, personne ne nous le fait remarquer.
Voilà, et donc je ne vois pas pourquoi avec l'euskara, on devrait créer des blocages ou des sensations comme ça de gêne ou de honte liées à la pratique de la langue qui va amener l'erreur. C'est tout ça en fait, qu'il faut décomplexer.
Donc tu parles clairement aussi de pratique hein, au quotidien. Dans ton quotidien à toi, est-ce que tu arrives à utiliser l'euskara?
Alors moi, dans ma vie personnelle, je veux dire dans ma vie professionnelle, c'est pas évident parce que je bosse dans le centre de Saint-Jean-de-Luz et on connaît aujourd'hui un peu l'évolution voilà, de la population euskaldoun à Saint-Jean-de-Luz. Donc effectivement, c'est pas forcément le lieu le plus adapté pour la pratique quotidienne. Par contre, dans toutes les associations dans lesquelles je fais partie, effectivement, l'euskara fait pleinement partie des sujets. À ce sujet-là, effectivement, à Bertioli, on pratique l'euskara naturellement. Il y a beaucoup d'euskaldoun, mais il faut savoir aussi qu'il y a des non-euskaldoun à Bertioli. Ce n'est pas un sujet qui justifie l'entrée ou pas d'un membre.
Bien sûr.
Donc je tenais à le préciser. Mm-hmm. Voilà.
Oui, puis je pense que c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, et heureusement aussi, lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas euskaldoun dans un groupe, on
exactement.
En discute, on en parle et on trouve des solutions.
Tout à fait. Mm-hmm.
Alors comme promis, on revient sur la musique. Tu joues plusieurs instruments, tu es dans un groupe de rock, un chœur d'hommes, Gasteloussar, Handaï. Mm-hmm. D'où te vient cette passion pour la musique?
Mais en fait, c'est un peu comme le rugby. J'ai été guidé, j'ai été bercé depuis ma plus tendre enfance. Là-dedans, mes parents étaient des euskal musika sale, je dirais. Et donc, voilà, moi, depuis toujours, j'ai baigné là-dedans. Mon père était batteur à l'époque avec Beñat Elizondo, par exemple. Ils avaient un groupe apparemment qui était mythique. et donc, moi, très vite, voilà, j'ai été dirigé vers la batterie à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai commencé au conservatoire à Saint-Jean. Puis ensuite, ça s'est suivi une autre direction, j'étais dans une école de rock à Bayonne qui était plus spécialisée sur ce style-là, qui a décomplexé beaucoup mon jeu. Et ensuite, de là, en a découlé la pratique de la guitare et aujourd'hui le chant
et
aussi.
Aujourd'hui le chant. Alors moi, quand j'entends ce parcours-là, je me dis, mais pourquoi tu n'en as pas fait ta profession en devenant intermittent, par exemple? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit?
Oui, traverser l'esprit, oui, on y pense parfois. Effectivement, ça serait un idéal dans la vie de se lever le matin et de vivre de sa passion. Mais pour quand même avoir des gens de ma famille qui ont vécu l'expérience ou qui la vivent, notamment ma sœur qui a été intermittente à l'époque avec Shkunk à Hendaye, je suis conscient aussi que ça demande de, voilà, beaucoup d'engagement en dehors de la maison, d'heures passées dans des conditions qui sont pas parfois compliquées. Mmh. Et donc, cette prise en compte fait qu'aujourd'hui, je décide plutôt voilà, d'avoir une pratique, je dirais, pour le plaisir. Mmh. Et donc, ça me suffit amplement.
Plaisir, mais régulière.
C'est ça, ah oui. Intensive même.
Intensive. Aujourd'hui, tu fais partie de la liste, Elgar Hekin. Quels sont les sujets sur lesquels tu souhaites t'investir à l'avenir à Urugne ?
Moi, il y a deux thématiques principales, de par ma sensibilité ou mon passif, qui me sont chères, je vais dire, mais autour de la culture, évidemment, du fait voilà, d'être musicien et baigné dans les assos à Urugne depuis très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui on a un outil assez unique et magnifique qui s'appelle Bishikenya, avec un potentiel qui est peut-être dont on ne réalise pas un peu ce qu'il peut amener. Et pour faire un parallèle pour les gens qui connaissent avec quelque chose qui est en Guipuscoa, pardon, qui s'appelle Bombelenea, je pense que Urugna a le Bombelenea d'y parler avec Bishikenya, quoi, je dirais. Et ensuite, le second sujet qui m'importe, ça touche tout ce qui touche, tout ce qui rejoint la dynamique, la redynamisation, la dynamique commerciale du bourg, de la place. Urugna a une particularité à ce niveau-là parce que voilà, on est très déchiré au niveau de l'offre commerciale entre Leclerc, Ibardine, Beobia, Poutilenia aussi. Donc, mais je crois réellement qu'il y a des choses encore à mettre en place, une dynamique différente au niveau des pratiques commerciales. Oui. À impulser. Et puis pour moi, la vitrine d'Urugna, ça doit être sa place. La vitrine d'Urugna, ça ne doit pas être le centre Leclerc, quoi.
Bien sûr. Eh bien, Lionel, merci pour cet échange très clair et très dynamique. Miloš Karenic.
Avec grand plaisir.
On se retrouve très vite pour découvrir d'autres membres de la liste Elgar Hekin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site elgarhekinuruna2026.eu. Miloš Karenic, merci à tous. Adio.
Adio.